Gardez vos Bibles ouvertes, donc à la page 688. Alors, est-ce que cela vous arrive parfois d'aller au cimetière et de lire ce qui est écrit sur les sépulcres? Souvent, il n'y a pas grand-chose, hein? Mais de temps en temps, on trouve une épitaphe, un petit mot pour résumer la vie de la personne. Alors, comment est-ce que vous résumeriez votre vie, le but de votre vie? Ou peut-être comment est-ce que les gens, vos amis, les membres de vos familles, comment est-ce qu'ils résumeraient votre vie? Vous savez, dans le journal, on lit les testaments qui décrivent la vie des grands hommes, des grandes femmes de la société. Il ou elle a fait ceci ou cela. Il a été haut placé dans l'administration. Il a été un grand inventeur, intellectuel, capitaine d'industrie. Elle a légué quelque chose à l'humanité, et ainsi de suite. Alors, ça peut sembler un peu morbide de commencer une prédication comme ça, mais la brièveté de nos jours sur Terre devrait nous conduire à bien réfléchir et à vivre aujourd'hui en conséquence. Alors, dans le passage de ce matin, nous allons revenir à la personne de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste va nous donner son propre résumé, sa propre épitaphe, si vous voulez, et cette épitaphe fait réfléchir. Alors, ça fait plusieurs semaines que nous avons perdu Jean-Baptiste de vue. Et en début de semaine, moi, je réfléchissais à la question de savoir pourquoi est-ce que l'apôtre Jean, l'auteur de ce livre, pourquoi est-ce qu'il a décidé de faire revenir Jean-Baptiste? Alors, l'apôtre Jean dit à la fin de son évangile qu'il a bien choisi son matériel parmi tout un tas de choses qu'il aurait pu dire. Déjà, consacré pas mal de place à ce Jean-Baptiste, ce monsieur un peu curieux, qui se décrit comme étant une voix dans le désert qui prépare le chemin de l'arrivée du Seigneur. Au nom de quoi donc est-ce que Jean, l'auteur, ressent le besoin de revenir à Jean-Baptiste et en dire plus? Alors, nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises dans cette série, mais l'apôtre Jean explique le but de son évangile, à la fin de son évangile, la raison en vue de quoi il a écrit. Il stipule au chapitre 20, verset 31, donc écoutez seulement. « Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Alors tout ce que l'apôtre a choisi de retenir pour son livre nous conduit vers ce but. Jean veut que nous croyions en Jésus et que nous recevions en lui la vie, la vraie, l'éternelle. Et ce passage qui parle de Jean-Baptiste doit y contribuer. Ce témoignage supplémentaire de Jean-Baptiste est là pour nous conduire à la foi, pour affermir notre foi en vue de la vie éternelle. Alors Jean-Baptiste est un témoin important de Jésus. Ceux qui viennent le jeudi soir, qui suivent les ateliers bibliques, je ne peux que vous encourager à faire ça. On a vu ça la dernière fois au chapitre 5. Jésus lui-même a appelé Jean-Baptiste à la barre comme un témoin. Et Jésus a dit, vous avez envoyé une délégation vers Jean-Baptiste. Il a rendu témoignage à la vérité. Et plus loin au chapitre 10, dernière mention de Jean-Baptiste dans cet évangile, l'apôtre Jean lui raconte que les foules disait au sujet de Jean-Baptiste, il disait, Jean n'a fait aucun signe miraculeux, mais tout ce qu'il a dit à propos de cet homme, Jésus, était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Alors, ce que Jean-Baptiste a à nous dire ce matin est important. Alors, si vous ne vous considérez pas comme un croyant, comme un disciple de Jésus-Christ, cet homme du premier siècle, Jean-Baptiste, veut vous dire quelque chose ce matin. Ce sont ses paroles, mais aussi son attitude, qui vont nous montrer l'importance de Jésus. Il va nous donner aussi un modèle de ce que cela veut dire de mettre notre confiance en lui. Jean-Baptiste, c'est aussi un modèle de la foi. Alors, revenons à notre texte ce matin. Alors, si vous avez fermé vos Bibles, c'est à page 688. Nous venons de terminer notre section où Jésus discute avec Nicodème. Donc, on a passé quelques semaines à voir cette discussion entre Jésus et Nicodème. Et au verset 22, l'apôtre Jean commence à nous raconter un autre épisode dans la vie de Jésus. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit en Judée. Il y séjourna avec eux et ils baptisèrent. Jean-Baptiste et Jésus sont tous les deux en train de baptiser des gens, même si bon, on apprend au chapitre 4 que plus précisément, c'est les disciples de Jésus qui baptisaient. En tout cas, il y a deux groupes, tous les deux sont en train de baptiser des gens qui veulent exprimer par ce geste leur repentance, leur désir de dire pardon et recommencer leur vie à zéro. Et puis, pour une raison ou pour une autre, une discussion, peut-être même une dispute, surgit entre les disciples de Jean-Baptiste et un autre juif au sujet de la purification. Est-ce que vous voyez ça au verset 25, au sujet de la purification? Alors, jusqu'ici, tout est logique. Baptême de Jean, comme d'autres rites juifs, était un bain de purification. Le fait de se laver, de se rendre pur ou propre aux yeux de Dieu. Alors, ce qui est un peu plus difficile, c'est un peu le lien logique avec le verset 6. Verset 26. Il vint trouver Jean et lui dire, « Maître, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise. » Et tous vont vers lui. Alors, d'une manière ou d'une autre, cette dispute, cette vive discussion au sujet de la purification porte sur le rapport entre Jean-Baptiste et Jésus et la nature de leurs œuvres, leur baptême respectif. Très clairement, les disciples de Jean-Baptiste sont un peu nerveux parce que Jésus et son baptême ont la cote. Jésus est devenu nettement plus coté que Jean. Tous vont vers lui. Si vous jetez un coup d'œil sur le verset 1 du chapitre 4, nous lisons que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Alors dans la suite de notre passage de ce matin, Jean-Baptiste répond à ses disciples et étonnamment, il n'évoque pas cette question de purification. En tout cas, pas de manière directe. On va y revenir. Ce qui est clair, en revanche, c'est que Jean-Baptiste n'a aucunement envie d'entrer en conflit avec Jésus. Une querelle de clocher est hors de question. Alors pourquoi? On va voir que Jean est on ne peut plus clair, qu'il est tout à fait normal que les gens préfèrent Jésus. Même Jean-Baptiste lui-même préfère Jésus. Donc voilà notre feuille de route pour ce matin. Premier point, donc allons à Jésus, car c'est à lui que nous avons été promis. Et puis on va voir dans un deuxième temps, écoutons sa voix et soyons remplis de joie. Donc on va commencer avec cette première partie. Allons à Jésus. Alors j'imagine que c'est difficile d'être une star, d'être constamment dans les médias, d'être poursuivi par les paparazzi. Difficile, mais valorisant en même temps. J'imagine que beaucoup de stars, de comédiens, de chanteurs s'habituent à leur célébrité et en dépendent. Certains, sans doute, en deviennent dépendants, un peu des drogués de la reconnaissance publique. Et c'est d'autant plus difficile que la concurrence est rude. Les médias se lassent vite des gens et passent sans état d'âme à la nouvelle star, à la mode. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fragilité, de jalousie et de dépression dans ces milieux-là. Et on sent un peu cette tension, cette jalousie chez les disciples de Jean, Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste lui-même n'est pas imbu de lui-même. Il ne déprime pas. Il ne pond pas de nouvelles stratégies pour reconquérir son public. Il dit tout simplement que le fait que Jésus a la cote et lui ne l'a plus est tout à fait normal. Plus que normal, un impératif, un devoir. Au verset 30, Jean finit avec son épitaphe. Il faut que Jésus grandisse et que moi, je diminue. C'est une obligation. Il faut que ce soit ainsi, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Un homme ne peut recevoir que ce que lui a été donné du ciel ou de Dieu. Jean reconnaît qu'entre lui et Jésus, il n'y a pas photo. Jean-Baptiste est celui qui est envoyé devant Jésus. C'est Jésus qui est la vraie star, le roi du royaume, le Messie, le Christ. Alors instinctivement, nous pesons les témoignages des gens. Si quelqu'un nous dit quelque chose aux infos ou dans un cadre plus personnel, nous tenons compte de la façon dont la chose est dite et nous évaluons aussi la crédibilité de la personne qui émet le témoignage. Est-ce raisonnable? On se demande si la personne qui le dit est honnête, trop intéressée, objective, ainsi de suite. Nous le faisons instinctivement. Ça fait partie de la vie en société, la vie humaine. Tout ce qui est dit n'est pas crédible. Il y a des gens qui se montrent peu crédibles par leurs actes et leurs attitudes. Le témoignage de Jean-Baptiste est humble. Jean ne cherche pas son intérêt. Il ne cherche pas à se faire bien voir ou à reconquérir son public pour sa propre gloire. Il choisit de s'incliner devant Jésus et de s'éclipser devant lui. Il semble être un homme bien digne de notre confiance. Et Jean-Baptiste nous dit qu'il est normal que Jésus soit plus populaire que lui, tout comme il est normal que le marié ait la mariée. Alors, j'étais à un mariage hier soir, donc un peu du mon état de fatigue. Donc, le mariage de Jonathan et Cathy Portius. Et puis, la mariée était resplendissante, bien sûr. Elle s'était faite toute belle pour son mari, Jonathan. C'est le marié qui a la mariée, l'épouse. Certainement pas l'ami du marié. Alors, cette métaphore du marié et son épouse est une métaphore bien très biblique. On la voit un peu partout dans la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. En fait, on l'a déjà vu au chapitre 2, il y a quelques semaines, Jésus a changé l'eau en vin. Il s'est comporté comme le marié. Il est devenu l'hôte qui donnait du vin à ses invités. Mais on trouve cette métaphore surtout chez les prophètes de l'Ancien Testament. Chez les prophètes, la mariée se réfère au peuple d'Israël et le marié, le mari, se réfère à Dieu, au Seigneur. Alors je vais lire quelques paroles du prophète Osée pour donner un exemple qui se trouve dans Osée 2, versets 16 à 22. Alors pour ceux qui veulent suivre ou ceux qui veulent lire plus tard, c'est à la page 582. Osée 2, verset 16. Alors, c'est un passage qui explique comment Dieu va sauver et restaurer son peuple. Son peuple s'est éloigné de lui. Et c'est Dieu qui parle dans le texte. Et Dieu dit, « C'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert. » Il parle de son peuple. « La conduire au désert et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes. » Et je ferai de la vallée d'Accor une porte d'espérance. Là, elle chantera comme à l'époque de sa jeunesse, comme le jour où elle est sortie d'Égypte. Ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'enlèverai de sa bouche les noms des Baals, si bien qu'on ne se souviendra même plus de leurs noms. Ce jour-là, je conclurai pour eux une alliance avec les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre. Je les ferai reposer en sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la bonté et la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité et tu connaîtras l'Éternel. Alors c'est pour ça que Jean-Baptiste dit que c'est normal que les foules aillent à Jésus. C'est Jésus qui est le Seigneur. Et il est venu pour chercher son peuple. Alors, pourquoi faire? Pour la purifier. Alors, dans le passage que nous venons de lire dans le livre d'Osée, on voit que le Seigneur enlève de la bouche de son peuple les noms des Baals, ces faux dieux, ces idoles qu'ils ont placés, qu'ils ont adorés à la place du Dieu vivant et vrai. Et Dieu a promis de les laver et de les purifier de cette idolâtrie. Alors je me demande si c'est pour ça que Jean-Baptiste choisit de résoudre un peu cette dispute au sujet de la purification en parlant du marié et de la mariée. Jean ne lui donne pas beaucoup de détails, mais ça me semble bien plausible. Le baptême de Jésus, le marié, est différent, bien différent de celui de Jean-Baptiste. Il est d'un ordre totalement différent, car le baptême de Jésus nous renvoie vers une œuvre de purification efficace et permanente. Alors, ce n'est pas le baptême, le passage dans l'eau, ce rite que nous pratiquons à l'Église, qui nous purifie en tant que tel, mais ce vers quoi il renvoie, c'est-à-dire notre unité par la foi avec Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. Une œuvre profonde qui se fait dans le croyant, qui s'accroche aux paroles de Jésus et qui met sa foi en lui. Au chapitre 1 de cet évangile, Jean-Baptiste a dit au sujet de Jésus, « Voici l'agneau qui enlève le péché du monde. » Jésus est cet agneau sacrificiel et son sacrifice résout le problème de notre péché, de notre rébellion quotidienne contre Dieu. Jésus, de par son œuvre à la croix, peut nous rendre vraiment propres et agréables aux yeux de Dieu. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, l'apôtre Paul décrit l'œuvre de Jésus de cette manière-ci. Christ s'est donné lui-même pour elle, donc l'Église, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alors si vous avez mis votre foi en Jésus, cela veut dire que vous êtes promis à Jésus. Vous faites partie de son épouse. Et grâce à lui, vous êtes déjà glorieux, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irréprochable. Alors ça veut dire, comme Michael l'a dit tout à l'heure, que cela ne veut pas dire que nous ne péchons jamais ou plus, que nous ne sommes sans faute, loin de là. Mais cela veut dire que de manière permanente, puisque nous sommes unis à Jésus, attachés à lui, collés à lui, nous avons été rendus saints. C'est chose faite. Ça veut dire que dans les moments de faiblesse, de doute, face à nos manquements de tous les jours, quand on se sent crade ou nul, pas à la hauteur, pire que d'autres, il faut revenir au pied de la croix et nous souvenir du fait que Jésus nous a déjà rendus purs par son sang. Et cela, une fois pour toutes. Alors, si vous avez mis votre foi en Jésus, est-ce que vous vous rendez compte de ce que Jésus, de ce que Dieu vous voit en Jésus? Celui qui est pur, sans péché, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irréprochable. Ce ne sont pas des rituels religieux qui vont nous rendre purs et acceptables devant Dieu, ni nos efforts. Nos efforts se révèlent au mieux médiocres. Mais Jésus, lui, nous a déjà lavés de fond en comble. Nous devons nous reposer en lui, dépendre de lui, nous réjouir en lui. Et en effet, cette confiance en lui est la voie de la joie. C'est normal que les gens aillent à Jésus. C'est pour ça que Jean-Baptiste est on ne peut plus clair que la mariée appartient au marié. Jean-Baptiste est venu pour préparer la venue, préparer la mariée pour son mari. Mais Jean-Baptiste, lui, ne peut enlever son péché et la rendre resplendissante. Alors peut-être que ça fait un moment que vous venez à l'église, vous n'avez pas vraiment pas encore mis votre foi en Jésus. Ben, Jésus vous connaît. Jésus connaît chacun de nos parcours. Et quoi que vous ayez fait, quelles que soient les bêtises, les erreurs, les fautes que vous avez commises, son œuvre à la croix est largement suffisante pour vous rendre pur et acceptable à ses yeux. Jésus est venu pour nous laver, pour nous purifier, pour rendre notre pardon possible, juste et permanent. Et Jean-Baptiste est un témoin crédible, un témoin humble et désintéressé. Il nous invite tous ce matin à fixer nos yeux sur Jésus, à nous confier en lui, à fixer nos yeux sur la croix. C'est lui, le marié, qui a rendu notre plein pardon possible. C'est son sang qui a coulé à la croix qui nous rend plus blancs que la neige. Nous sommes à notre deuxième partie, écoutant sa voix et soyons remplis de joie. Je vais être un peu plus bref. Je pense que l'apôtre Jean, qui a écrit cet évangile, fait revenir Jean-Baptiste pour une autre raison aussi. Alors ces dernières semaines, nous nous sommes penchés sur cette conversation entre Jésus et Nicodème, rapporté dans les versets précédents. Et je me demande si Jean, l'auteur, n'est pas en train de comparer l'attitude de Nicodème à celle de Jean-Baptiste. Nicodème, pourtant un responsable religieux, instruit, il peinait à comprendre les paroles de Jésus. Il voyait les choses de manière très physique et littérale. Et Nicodème n'a pas pu cerner l'identité de Jésus, qu'il avait devant lui, la grandeur de Jésus, sa divinité, ce qu'il allait faire à la croix, mais surtout aussi son propre besoin de lui. Mais Jean-Baptiste est très différent. Alors, il faut être prudent avant de se mettre à la place des personnages bibliques. Nous ne sommes pas de petits Jean-Baptiste. Lui avait un ministère très spécifique. On ne peut pas tout simplement plaquer notre expérience ou son expérience sur la nôtre et nous attendre à voir les mêmes choses dans nos vies. La Bible ne nous appelle pas à aller dans le désert et à manger des sauterelles, par exemple. Mais dans ce cas précis, j'ai quand même l'impression que Jean-Baptiste est bel et bien un exemple, notre exemple. Pourquoi ? C'est le verset 29 qui nous met sur la piste. Celui qui a la mariée, donc verset 29, c'est le marié, mais l'ami du marié, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Jean-Baptiste entend la voix de Jésus, la voix du marié. Alors comment faut-il comprendre cela ? Oui, il a entendu une fois ou deux, de temps en temps. Ou est-ce que ça veut dire plutôt, il a vraiment entendu, de manière profonde et spirituelle? Alors, à mon avis, le choix de ce mot n'est pas anodin, il est très bien choisi. Nous avons vu lors de nos ateliers bibliques, il y a deux semaines, chapitre 5 de l'Évangile de Jean, que la voix de Jésus est une voix tout à fait remarquable, une voix qui parle et qui donne la vie, qui restaure et qui recrée. C'est une voix qui ressuscite les morts et qui a l'autorité de juger. Le Père lui a donné l'autorité de donner la vie et de juger. Et c'est par sa voix, par sa parole, que cette autorité s'exerce. Et plus loin dans l'évangile de Jean, Jésus dira qu'il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis et que les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Et Jean-Baptiste est une de ces brebis. Il écoute la voix du bon berger et il le suit. Il ne se met pas au même niveau que lui. Il ne se pose pas en rival. Il ne met pas sa propre voix au même niveau que celle du maître. Il entend la voix de Jésus. Il s'humilie devant lui. Il s'abaisse devant lui. Il faut que Jésus grandisse et que moi, je diminue. Alors, Jean n'est pas en train de s'écraser ou de broyer du noir ou de s'autoflageller ou de se déprécier de manière malsaine. Sa foi est humble, mais elle n'est pas destructrice. La preuve, c'est que Jean-Baptiste est dans la joie. Sa joie est parfaite. Certes, Jean-Baptiste n'a plus la cote. Les camarades de télévision ne s'intéressent plus à lui. Il ne fait plus la une des magazines de People. Les photos sont toutes du marié et de son épouse. Mais loin de déprimer, il est dans la joie. Pourquoi ? Parce que Jésus est son trésor. Jean-Baptiste a reçu ce que lui a été donné du ciel. Et c'est Jésus qui lui a été donné du ciel. Jean-Baptiste l'a reçu avec des bras grands ouverts. Alors, qu'est-ce qui vous rend joyeux ? Chacun de nous peut sans doute passer en revue des situations heureuses que nous avons vécues, la naissance d'un enfant, le cadeau d'un ami, une promotion au travail, les vacances bien reposantes. Mais nous savons que ces joies, aussi riches, heureuses soient-elles, ne perdurent pas. Nos joies peuvent se transformer vite fait en peine. Mais la joie de Jean-Baptiste ne dépend pas des circonstances, de sa situation familiale, professionnelle ou matérielle. Sa joie puise sa source en Jésus. Jean-Baptiste est à lui et Jésus est à Jean-Baptiste. Sa confiance est en le marié qui le dépasse de loin, qui lui est bien supérieur. Sa joie est en celui qui peut nous rendre saints, pur, sans tache, irréprochable, de manière permanente. Jean-Baptiste trouve sa joie en lui, en la voix de son bon berger. Jésus est son trésor, son plus grand bien, sa joie. Et cette joie est pour tous ceux qui s'humilient devant Jésus, qui se fient à Jésus, qui mettent la confiance en lui et qui sont lavés et purifiés par lui. Alors moi, je n'ai pas besoin de vous dire que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Nous avons tous eu notre lot d'épreuves, de coups durs, et certains nettement plus que d'autres. Et la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille non plus. Jésus ne nous promet pas de nous épargner des problèmes. ne promet pas la bénédiction matérielle ou familiale. Au contraire, il promet des temps difficiles. Ce n'est pas facile d'être un témoin, un ambassadeur de Jésus. On voit l'exemple de l'Église persécutée en Inde ou en Irak. Le quotidien est tout sauf facile. Mais n'empêche que même pendant ces épreuves douloureuses, ceux qui écoutent la voix du berger et qui le suivent peuvent connaître cette joie parfaite. La joie de se savoir à lui, en lui, avec lui, racheté, aimé, justifié, pardonné, adopté, lavé et promis à lui pour toute l'éternité. D'autres trésors ne donnent pas cette joie parfaite. Oui, on peut se réjouir des bonnes choses de la vie. On peut remercier le Seigneur pour nos maisons, nos emplois, nos familles, nos amis, nos vacances, nos loisirs. Mais ces choses-là, aussi bonnes qu'elles soient-elles, ne peuvent nous procurer cette paix profonde, cette joie profonde qui se trouve en Jésus seul. Et Jean-Baptiste l'a bien compris. Et c'est pour ça qu'il peut dire avec sincérité, un peu en guise d'épitaphe, il faut que Jésus grandisse et que moi, je diminue. Jean-Baptiste nous invite à écouter humblement la voix du bon berger ce matin et à l'exalter dans nos cœurs, l'agrandir dans nos cœurs, à l'adorer, à l'apprécier, à l'aimer, à trouver notre joie, notre trésor en lui. Celui qui, de manière permanente, nous rend pur et acceptable aux yeux de Dieu. Celui à qui nous sommes promis pour toute l'éternité. Je vous invite à la prière. On va prier.